ce qu'on utilise pour fabriquer un Eruv. C'est-à-dire quelles matières on peut utiliser, quels aliments on va utiliser pour faire un Eruv. L'Eruv, c'est donc ce repas qu'on va mettre pour pouvoir se déplacer plus loin. Donc, l'idée de base, c'est toute personne, au début de Shabbat ou au début de Yom Tov, elle est réputée, donc, avoir acquis un lieu. Son lieu, c'est là où elle est, au début, au moment du coucher du soleil, vendredi soir, ou la veille, donc, au commencement de la fête. Là, à partir de ce point-là, elle a autour d'elle 2000 coudées, 2000 amotes dans lesquelles elle peut se mouvoir. On parle de quelqu'un qui est dans le désert ou n'importe où, il est dans le désert. Après, si on est dans une ville, on verra, la ville est considérée éventuellement comme un seul point, et les 2000, ils vont commencer à les limites de la ville, mais on n'en est pas encore là. Donc, on a quelqu'un est posé à l'entrée de Shabbat ou à l'entrée de Yom Tov en un point, et là, cette personne, elle a autour d'elle 2000 amotes, c'est-à-dire 2000 coudées, disons, on va dire en gros, 1 kilomètre sous azimut autour d'elle. Alors, supposer que cette personne sache qu'elle veut aller à la rencontre de quelqu'un qui va venir de l'extérieur, qui va venir venir de l'Est. Alors, elle peut faire la chose suivante. Elle peut déposer avant Yom Tov, avant Shabbat, au bout des 2000 amotes dans la direction de l'Est, elle dépose un repas, disons. Et tout va être considéré comme si elle avait fait Shabbat ou Yom Tov à cet endroit-là, dans ces 2000 amotes, au bout des 2000 amotes. Et du coup, elle a de nouveau, elle a maintenant 2000 amotes à partir de cet endroit-là. Alors, évidemment, elle a gagné 2000 amotes dans la direction de l'Est, en direction, mais elle a perdu dans la direction de l'Ouest, elle a perdu 2000 amotes. Parce que elle ne va pas conserver les 2000 amotes qu'elle avait quand elle était là où elle était en réalité. Avec cette fiction-là, considérer que à plus de 2000 direction d'Est, elle va gagner 2000 dans le Nord et perdre évidemment 2000 dans l'Est, j'ai dit, et perdre 2000 dans la direction de l'Ouest. Mmh. Alors maintenant, de quoi est composé ce repas qui doit être posé, je vous répète, avant que ne commence le Shabbat ou le Yom Tov. Alors on dit ici, Bakol Me'arvin. On peut utiliser toute chose pour fabriquer un Eruv. Alors ici, le Eruv dont on parle, Rashi dit tout de suite, Bakol Me'arvin Eruvei Chatzirot, ou Troumin. Donc Rashi a l'air de dire, que ça parle des Troumin, comme c'est ce que je vous ai expliqué. Ça parle aussi de Eruv Chatzirot. L'Eruv Chatzirot, je répète ce que c'est. Et il se trouve que c'était construit comme ça, en leur temps. Les maisons donnaient dans une cour. Il y avait une cour commune, en quelque sorte. Il supposait qu'il y ait une cour autour de laquelle il y ait, disons, 4 maisons, nord, sud, est, ouest. Ces maisons, elles ont en commun la cour. Normalement, une cour, elle est fermée, on devrait pouvoir porter dans cette cour. La rechoute à Yachid. Et les Rabbanan, ils se sont dit que puisque plusieurs personnes avaient des droits sur cette cour, ça ressemble à un rechoute abîme, à un domaine public. Et donc, ils ont exigé qu'on retransforme cet endroit qui ressemble à, qu'on mette l'accent sur le fait que cet endroit est en fait un endroit privé. Comment est-ce qu'on va faire? On va faire comme si les 4 maisons, là en l'occurrence, n'en étaient qu'une seule. C'est-à-dire, on va considérer que le fait qu'on va mettre en commun une nourriture qui appartiendra donc à ces 4 maisons, on considère que c'est comme s'ils avaient une table en commun et qu'ils mangeaient tous à la même table et que le reste, c'est comme dans un appartement, vous avez la salle à manger où tout le monde mange ensemble. Mais chacun, ça n'empêche pas que chacun a sa chambre. Ça ne nous dérange pas. Donc, on va retrouver, réaccentuer la chose qui est une chose vraie. Le chatser, c'est bien un rechoute à Yachid, c'est bien un domaine privé. D'accord? Mais comme il ressemble à un domaine public, les Rabbanan ont fait une Khumra, ils ont été plus exigeants et ils ont obligé de considérer un peu comme un domaine public. Et il faut réaccentuer le côté privé et on fait ça en déposant un repas, une espèce de fiction. C'est-à-dire, en général, on fait ça, par exemple, vous, dans votre Khaymeir, là, dans le ghetto, là-bas. Je pense que vous avez un hérouf commun.
Oui, oui.
Bon, je sais pas, un paquet de matzot. En général, on prend des matzot qui se conservent mieux que des chalot qu'il faudrait.
J'ai pas vérifié.
Alors, en général, on a même l'habitude, à Pessah, de le changer. Bien qu'en fait, les matzot ne deviennent jamais chametz. On pourrait les garder l'un et l'autre, mais, en général, peut-être pour qu'on n'oublie pas complètement quand on a fait un hérouf, on a l'habitude de changer le paquet de matzah avant Pessah. Bon, on mettait un paquet de matzah en commun, qui est considéré comme le repas commun des quatre maisons dont j'ai parlé, ou de 5, 10, 25 maisons, n'importe, qui donnent toutes dans la même cour. Ça s'appelle hérouf chatzerot. Le mot hérouf veut dire mélange. Donc, on va mélanger non pas les cours, mais mélanger les gens, les maisons qui donnent dans les cours. Vous vous souvenez, la structure, c'était toujours maison qui donne dans une cour, et plusieurs cours qui donnent dans un mavoï, et un mavoï qui donne dans le Rishout Arabim. Le mavoï, c'est une espèce de contre-allée, ou un, comme ça, ou un collecteur, dans lequel se déversent les cours, et ce collecteur, en quelque sorte, idole, lui, dans le véritable Rishout Arabim, dans la véritable route nationale. Donc, Bakol Me'arvin veut dire, d'après Rashi, on peut utiliser toute nourriture. On veut faire un hérouf. Que font un hérouf dans la première chose que vous faites? Un hérouf pour pouvoir porter dans une direction particulière, plus loin qu'on ne pouvait porter. La fiction, que c'est comme si on avait passé Shabbat ou Yom Tov à plus 2000 côté Est. Donc, on a de nouveau 2000 de plus. Donc, on aura eu en tout 4000 depuis son domicile dans la direction de l'Est. Donc, aller à la rencontre de son maître, de son ami, ou aller, je sais pas, à la pharmacie du coin, si c'est Yom Tov ou je sais pas quoi. On peut aller là-bas. Ou bien, on peut, et on parle aussi du hérouf de Hatzerot. Alors, Bakol Me'arvin ou Mishtatfim. Alors, les Ishtatef, Chitouf, ça veut dire association, on peut dire, ouais, c'est en hébreu moderne, l'Ishtatef, c'est s'associer. Alors, qu'est-ce que c'est ou Mishtatfim? Regardez Rashi. Ou Mishtatfim Vemavoy. C'est la même chose que ce qu'on fait pour le Hatzer, mais pour le Mavoï. Le Mavoï, c'est ce fameux collecteur. Là aussi, pour pouvoir porter dans ce collecteur, il y a des maisons qui donnent dans ce collecteur pour pouvoir porter. Alors, il faut aussi que les maisons qui donnent dans ce collecteur, ou les cours plus exactement, qui donnent dans ce collecteur, mettent une nourriture en commun pour faire comme si elles étaient unifiées. Cette nourriture, c'est toujours un moyen d'unifier. D'accord, bon, alors ça maintenant, est-ce que il faut réfléchir sur le fait que la nourriture, c'est l'unification, permet d'unifier. C'est pour ça d'ailleurs que les interdits alimentaires que nous avons cassent une éventuelle unité qu'on pourrait avoir avec des gens qui ne sont pas astreints à la même patroute. Donc comme on dit en français, on dit souvent que ne pas manger, c'est la nourriture de la haine. On ne mange pas avec quelqu'un, c'est génère de la haine. En théorie, le contraire, c'est manger avec quelqu'un, c'est censé générer de l'amour. C'est ce qu'on est en train de faire ici. Donc, cette fiction de on mange ensemble, donc on est ensemble. Alors, les conditions pour valider ce repas qui a la fonction d'unifier les gens les cours du Mavoï, ou bien les maisons de Hatzer, ou bien permettre à quelqu'un d'avoir une fiction, d'avoir un autre lieu que le sien, là où il a déposé cette nourriture. Quand pendant Shabbat et Yom Tov, il est dans sa maison, mais il l'a déposé avant Yom Tov et pour les besoins de la cause, comme tout problème, c'est un problème de, on est dans le Derabanan, on est dans l'interdit Derabanan. Le troum ici, c'est un troum Derabanan, c'est 2000 amot, c'est pas Yudbet, c'est pas, il y a un troum de Minatora, dont on parle pas ici. Voilà, donc, Bakol, Mervin ou Mishtafim, Kroutz. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qu'on ne peut pas considérer comme une nourriture unifiante à elle toute seule? Kroutz, Mila, Maïm. Sauf si on a déposé une gourde d'eau, ou bien on a déposé une salière, ou Mina Melach. À ces deux exceptions près, toute nourriture va fonctionner et va marcher, et on pourra utiliser ça comme un hérouf. Question claire pour tout le monde?
Oui.
Oui, parce qu'on ne peut pas utiliser.
Aimer ou bien pas? Aimer.
Comment?
Vous avez entendu?
Quoi? Oui, est-ce qu'on on a bien compris? Et là, ma question, c'était pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser l'eau et le sel?
Parce qu'on considère que ce n'est pas un repas.
Pas un repas.
On va dire qu'on fait un repas.
Ah, il faut que ce soit un repas.
L'amour est d'eau chaude, mais il manque l'amour là-bas. Donc, si on ne fait pas de l'amour, ça ne va pas faire un repas.
L'eau salée, c'est pas terrible.
L'eau seule, ça ne marche pas. Et le sel, donc, c'est un condiment. La même chose, probablement, qu'on ne pouvait pas mettre non plus, je sais pas, du poivre ou une épice quelconque. Hein, quand on a dit le sel, ça ne marche pas. Ça inclut les choses qui ne sont pas une vraie nourriture. Du maaser. Qu'est-ce que c'est maaser? Mina maïm ou mina mela. C'est une halakha plus générale. Mais si j'ai sauté le rashi, j'ai pas lu le rashi sur le maïm. Mina maïm ou mina mela, je vais dans le rashi. De lave midé de mazono. C'est pas quelque chose qui nourrit. C'est pas une nourriture. Ce que je vous ai dit. C'est pas une nourriture. Le sel et l'eau, c'est pas une nourriture. Et tama de hirouv, michoum de, alors. En quoi est-ce que ça nous dérange que ce soit pas une nourriture? On a quand même mis symboliquement quelque chose. On dit le mot fonctionne. Pourquoi? Michoum de dato, de dirato, de makom, de zonotap. Ce qu'on va dire comme ça. Le sentiment d'habiter à quelque part, d'accord, à un endroit bien précis, bah, il est attaché à l'endroit où se trouve sa nourriture. Et qui va nous kol bene chaser kede mazon bebayit echad. Et puisque tous les participants, donc toutes les maisons qui donnent dans le chaser, dans la cour, ont donné kede mazon, de quoi manger, bebayit echad, qu'on a déposé dans une des maisons, asnase ki lu kulan darim betocho. C'est comme si tous les gens habitaient dans cette maison-là, à l'endroit où on a posé le hérouf. Venimtsu kulan reshut tachat. Et du coup, ils habitent tous au même endroit. Donc, on a unifié tous les domaines privés autour de la cour sont unifiés. Vechen be'eruvé trumin. De même, quand on parle du hérouf de trum, pour se déplacer dans une direction, נעשה כמי ששכב שם ומשם יש לו אלפיים אמה. Comme s'il avait dormi là-bas, tout à coup il introduit quelque chose de nouveau. Enfin, c'est comme s'il avait passé la nuit là-bas. Alors, il... Alors, vous avez le bar, vous avez un petit bête après le kemi, petite note, ça correspond à Gaota Bar. Le bar, il corrige le texte ici, il dit pas comment chez Shachav, mais comment chez Shabbat, Sham. Comme s'il avait passé Shabbat à cet endroit-là. Vous voyez, entre Shachav et Shabbat, le kaf qui est au milieu de Shin, kaf, bête, le kaf, il peut facilement se transformer en bête. Et donc, ça commencerait par Shabbat. Alors, il y a un kaf à la fin de nouveau. Il y a un bête, pardon. Bon, alors, ça fonctionne pas vraiment bien, mais comme Shabbat, donc, il faudrait mettre le kaf, bon. Peu importe. Il faut changer Shachav en Shabbat. Comment chez Shabbat, Sham? C'est comme s'il avait passé Shabbat à cet endroit-là. Umisham, et à partir de cet endroit-là, Yeshlo Alpaimama, il a 2000 amot autour de cet endroit-là, le Kol Ruach, et le Kaf Davar Mazon Beinam. C'est la raison pour laquelle on a besoin de quelque chose qui soit une nourriture. Et l'eau et le sel ne sont pas des nourritures.
Oui, c'est parce que à Shabbat et à Yom Tov, on n'a pas le droit de ne se nourrir que d'eau et de sel. On doit manger autre chose.
Oui, mais parce que je crois que c'est plus que ça. C'est-à-dire que...
Parce que vous, non, je dirais, il pourrait y avoir un jour...
On ne peut pas se nourrir que d'eau et de sel. À la limite, non, alarmiquement, on ne doit pas jeûner
c'est ça,
Shabbat, mais si quelqu'un a rompu le jeûne avec de l'eau, il n'a pas jeûné, donc il n'a pas transgressé de ce point de vue-là. Donc, c'est vrai que il n'a pas honoré le Shabbat avec un repas, mais il n'a pas jeûné Shabbat, et comme l'interdit, c'est de jeûner Shabbat, bon, du coup, lui, il n'a pas jeûné, il a bu. Vous buvez vraiment parce que vous avez soif. De l'eau, si on boit sans soif, on ne fait pas le même de bracha de suivre de l'eau pour prendre un médicament ou de suivre l'eau pour vous rincer la bouche ou n'importe quoi. Si vous n'avez pas soif, on ne fait pas de bracha sur de l'eau. La seule chose sur laquelle on ne fait pas de bénédiction, si on n'en a pas une jouissance, et la jouissance de l'eau, c'est d'étancher la soif. Bien maintenant, on parle de Kesef Maaser. Qu'est-ce que c'est Kesef Maaser, vous vous souvenez? Dans les prélèvements que doit faire un propriétaire quand il récolte son blé, par exemple. Alors, une fois qu'il a terminé sa récolte, lorsqu'il a fait il va lisser le temps, c'est-à-dire, travail de récolte terminé. Comment là, il a une première mitzvah qui est de prélever ce qui s'appelle la Trouma. Trouma, considéré la racine de Trouma, c'est Ram, ça veut dire c'est élévation. C'est pour ça qu'on appelle ça un prélèvement. On lève quelque chose. Ce prélèvement-là, il n'a pas de mesure. C'est une certaine quantité de blé qu'on doit donner au Cohen. Ensuite, sur ce même tas, on doit prendre une dîme, 10%, qu'on doit donner au Lévi. Ça, c'est toujours la même chose. À chaque récolte, c'est la même chose. Mais ensuite, il y a un troisième prélèvement qui, lui, dépend de l'année dans le cycle des 7 années, même d'une Shemitah à l'autre, d'une année sabbatique à l'autre. Alors, il y a des années où on doit prélever une nouvelle dîme qu'on doit donner aux pauvres. Il y a d'autres années où on doit prélever une dîme, et cette dîme, on doit aller la manger à Yerushalayim. Alors, bien sûr que si vous avez récolté, pas quoi, dans votre vigne, dans le Galil, vous avez récolté votre raisin et que vous n'avez pas l'intention d'aller tout de suite à Yerushalayim, ça va s'abîmer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La Torah a prévu que tu peux racheter, disons que vous avez la dîme de votre vigne, en l'occurrence, pour les besoins de la... 1 kilo, disons. C'est 1 kilo de raisin, oui. Il y a 1 kilo de raisin que vous devriez aller manger à Yerushalayim. Vous pouvez pas parce que vous n'allez pas à Yerushalayim jusqu'à la prochaine fête de pèlerinage. D'accord? Il faudra attendre le Pessah prochain pour aller à Yerushalayim. Donc, d'ici là, votre raisin, il sera bien abîmé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va racheter, on va dire, transférer donc la kedusha, la sainteté. Sainteté voulant dire ici l'obligation qu'on a de le consommer à Yerushalayim. On va mettre ça sur une pièce d'argent, sur de l'argent. On va dire comme ça, un kilo de raisin, ça vaut 5 euros. Donc, on prend 5 euros et on dit, voilà, je transfère les obligations liées à la consommation à Yerushalayim de ce raisin sur cet argent. Et ensuite, quand vous irez à Yerushalayim, vous prendrez cette pièce d'argent et vous allez la dépenser en nourriture à Yerushalayim. Là, ça s'appelle Kesef Maaser et Kesef Maaser Shini. Voilà. C'est de ça qu'on parle. Alors maintenant, avec cet argent-là, il doit être normalement donc, dépensé à Yerushalayim. L'idée étant qu'on veut qu'il y ait une grande activité, que les marchés de Yerushalayim soient très remplis. Je pense que les frais vont là-bas. On pourra grandir le renom de Yerushalayim. Alors maintenant, on peut utiliser ce qu'on nous dit ici, que toute cette nourriture à col, on peut tout acheter avec Kesef Maaser, Maaser, Outz Min Hamayim ou Min Hamelach. Donc c'est un dîme général, ça pas seulement en ce qui concerne le Hérouv, évidemment, mais de façon générale, puisqu'on parle de nourriture et qu'on exclut l'eau et le sel, alors on parle d'une autre situation où, en tant que nourriture, le sel et l'eau sont également exclus. Ça veut dire que tu peux pas, à Yerushalayim, dépenser tes 5 euros pour acheter de l'eau, ou bien pour acheter du sel, et pour acheter, tu n'es pas obligé d'acheter de raisin. Tu peux acheter ce que tu veux, mais pas ni de l'eau, ni du sel. C'est clair? Voilà. C'est les mêmes restrictions dans un cadre complètement différent. C'est le cadre de la consommation à Yerushalayim, etc. Ensuite, Anoter min Amazon, celui qui fait un vœu par lequel il s'interdit de consommer de la nourriture. En cinglé, il s'interdit de consommer de la nourriture. Bon, disons même qu'il s'est, c'est pas un type qui s'est interdit sa vie, mais il s'est interdit de manger de la nourriture. Par exemple, m'interdit de manger quoi que ce soit chez Toto. D'accord. Ok. Et maintenant, il arrive chez Toto et il a soif. Est-ce qu'il peut boire de l'eau? D'accord. Est-ce que dans son interdit de consommer quoi que ce soit comme nourriture chez Toto, est-ce qu'il a inclus l'eau? A priori, c'est pas le sel, mais il a inclus l'eau. Alors, on dit, anoder min Amazon, moutar, bon, c'est, certains disent qu'il faut le lire ou pas le lire, peu importe, le melach ou mazon ou maïm, ça veut dire, tu peux boire de l'eau. Puisqu'on décide que l'eau n'est pas une nourriture, c'est pas quelque chose qui rassasie, etc., alors, même si tu t'es interdit de consommer, par exemple, toute nourriture chez Toto, tu peux y boire de l'eau. Si tu as soif là-bas, tu peux boire de l'eau.
Même
c'est clair? C'est toujours les mêmes conditions, toujours cette même idée que l'eau n'est pas une nourriture.
C'est condensé.
D'accord. Alors, maintenant, on va parler de certaines personnes particulières. On va parler d'un nazir. Le nazir, c'est quelqu'un qui a fait un vœu par lequel il est devenu ce qu'il s'appelle nazir. Quand quelqu'un est nazir, on lui a plusieurs interdits. Il n'a pas le droit de boire du vin, ni de boire, ni de manger quoi que ce soit qui provienne du raisin. Ensuite, il n'a pas le droit de se couper les cheveux. Et il n'a pas le droit de se rendre impur. Il ne peut pas s'occuper d'un mort. Il ne peut pas entrer dans un cimetière, etc. Combien de temps? Ben, le temps qu'il a fixé. Il peut devenir nazir pour un, si on dit simplement je veux être nazir, si quelqu'un disait ça, il serait nazir pour un mois. Si on dit rien, c'est un mois. Il peut dire, une personne peut dire qu'elle veut être nazir pour 6 mois, pour 4 mois, ou pour 37 jours, peu importe, elle peut fixer ce qu'elle veut. C'est clair?
Oui.
Alors, maintenant, le problème, c'est, lui, il veut faire un hérouv. Alors, est-ce qu'on peut utiliser, le problème, c'est que pour lui, on peut pas utiliser les choses qui lui sont interdites à la consommation. Marvin et Nazir Beyaïm. Alors, la Mishnah, elle dit, un Nazir qui n'a pas le droit de boire du vin.
Eh oui.
Mais néanmoins, on peut considérer que si on l'a mis une bouteille de vin, parce que la Gemara elle considère que le vin c'est oui une nourriture, donc s'il a mis sa bouteille de vin à 2000 amotes, ou si on l'a mis, si les gens se sont mis d'accord dans un chatser qu'ils contribuent tous à l'achat d'une bouteille de vin, ce sera la nourriture commune, le nazir il est paradoxalement, bien que lui ne puisse pas le boire. Et de la même manière, en Israël, il n'a pas le droit de manger de la trouma. La trouma, c'est ce fameux premier prélèvement dont je vous ai dit qu'on le donnait au Kohen. Et seul le Kohen peut en boire. Hein, Israël, il peut en manger. Ça peut être de la boisson aussi, d'ailleurs. C'est du vin. Mais si maintenant, un Israël mangeait de la trouma, il est passible de mort. C'est extrêmement grave. Et néanmoins, on peut mettre de la nourriture de trouma comme nourriture du hérouve. On peut fabriquer un hérouve avec une nourriture, un pain qui est un pain qu'on a fait avec de la farine houma, qu'un Kohen a fait avec la farine qu'on lui a donnée, par exemple. Donc là, c'est paradoxal, il faudra qu'on comprenne pourquoi, alors que les personnes ne peuvent pas en manger sans transgresser, c'est une transgression qui sont grave, ça marche quand même comme hérouve. Là, la fiction, elle va un peu loin, là.
Ça veut dire qu'on ne va pas manger ce qui a servi à faire le hérouve, non?
A priori, on n'est pas obligé de le manger. Il faut pouvoir le manger. On n'a même pas le droit de le manger. C'est paradoxal.
Ben oui.
Mais alors ça, on va regarder après dans la suite. J'avance un tout petit peu encore. Sumchus, c'est son nom. Sumchus Omer, le Choline. Sumchus lui dit non, ou le Kohen Bebetapras. Alors, Sumchus il dit du Choline, c'est-à-dire pas de la Trouma. Nourriture, Choline, ça veut dire, profane, ça veut dire, c'est une nourriture, n'importe quelle nourriture. Ou le Kohen Bebetapras. Bebetapras, bon, la chose qui change. Et on sait pas, et donc il y a des ossements qui sont un peu partout dans ce champ, et évidemment un Kohen il n'a pas le droit de passer là-bas parce qu'il risque de devenir impur. Il passe par-dessus des parties d'ossements, des parties d'un corps humain. Alors il va devenir impur et il n'a pas le droit donc de passer. Et néanmoins, on peut poser le hérouve dans un bêta-pras, même si celui qui veut bénéficier de ce hérouf, c'est un Kohen. Sur Rabbi Yehuda Omer, Afilou ben Akvarot. C'est un endroit où il peut y avoir, mais on n'est pas sûr qu'il y en a. Mais Rabbi Yehuda, il dit, on peut même déposer le hérouf dans un cimetière. On est sûr.
Akvarot, un
cimetière. Oui, là-bas. Pourquoi cela? Parce qu'on va dire se protéger, on va vous expliquer comment, et aller et manger. Bien.
Et si on revient au nazir, là, on suppose bien sûr que les autres personnes qui vont être unifiées par ce hérouve, ils sont pas nazirs.
Non, mais ça change rien parce que on parle ici du hérouve que quelqu'un fait un hérouve troumi, c'est personnel, c'est pour lui.
Oui, tout à fait. Même pour lui, il peut.
Oui, c'est en ultime, ça marche pour lui aussi. Ça
ouais, le alors, je reprends. C'est sûrement un
hérouve. Pardon?
J'ai dit, c'est sûrement un hérouve troumim, parce que de toute façon, on n'imagine pas qu'un bet akvarot soit dans un reshout hayachid, si, ça peut arriver.
Et ça, pourquoi il faut être dans un reshout hayachid?
Non, mais dans un khatser, quoi, ça peut pas être un hérouve khatserot, du coup.
Bon, par khatserot, on peut imaginer qu'il y ait dans la cour, il y a une partie qui est un peu cimetière, on peut imaginer.
Oui.
Mais bon, on n'est pas, c'est pas obligé de prendre ça là, ça marche pour. Pour Troumine, par exemple.
D'accord.
Alors, le
Kesef,
oui.
Non, c'est bon.
Le Kesef Maaser, je reprends dans Rashi. Le Kesef Maaser, le Torf Yerushalayim, que Shiur Motsio, le Tzoref Maachalo. Alors, Rashi, lui, il particularise. Quand il dit qu'on peut, avec Kesef Maaser, il dit que que chez Omotsi, le Tzorer Machalo, excusez-moi, c'est pas particularisé, c'est ce que je vous ai dit, on parle pas spécifiquement des ruines ici. Des particularités. Betor Yerushalayim, que chez Omotsio, le Tzorer Machalo, quand il va dépenser cet argent du Maaser. Je vous rappelle, cet argent, c'est l'argent qui a servi à racheter, c'est-à-dire, sur lequel on a mis les obligations de consommer à Yerushalayim qu'il y avait sur le kilo de raisin sont maintenant sur les 5 euros d'argent qui doit aller dépenser pour des produits alimentaires à Yerushalayim. Donc, il dit, le dépense, moi aussi, le sorech ma'achalo, pour sa nourriture, dit-il, comme c'est marqué dans le pasouk. C'est le pasouk qui vous décrit la possibilité de procéder à ce que ça s'appelle un tigyon, à ce rachat de la kedusha qui est sur le raisin. Par la kedusha, on entend les obligations qu'on a de le consommer à Yerushalayim, qu'on a mis sur l'argent. Venatata akesef, tu utilises, ça veut dire tu donneras, que tu utiliseras l'argent de chol asher ta'aveh nafshecha, pour tout ce que tu auras envie de manger. Tu n'es pas obligé, évidemment, d'acheter du raisin. La Gemara va expliquer pourquoi ça marche pas. Que la nourriture qu'on doit acheter à Yerushalayim avec cet argent, ça doit être prix mi-prix. C'est-à-dire, c'est un fruit qui vient d'un fruit. On verra ce que ça veut dire. Il y a une dracha, il y a un limoud qui fait que l'eau et le sel n'entrent pas dans cette On est Marev, le Nazir Erouvé Troumine. Alors, pourquoi est-ce que ça pourrait pas Erouvé Khatserot? On verra. Pourquoi Rachid n'a pas répété? Pourquoi il s'est rendu la seulement Troumine? Et Yahin, c'est un falgrave de l'Ochazil et d'idée. Et bien que ça ne soit pas une nourriture qui soit acquise, ils lui conviennent à lui, puisque lui ne peut pas le manger. Khazila Khine, ça marche pour les autres, pour quelqu'un d'autre, qui n'est pas du tout dans le problème du héros. Là, il a trouvé quelqu'un, un SDF, qui est à côté de l'endroit où il a posé son héros, et il offre le SDF, il va prendre la bouteille, il va faire une fête à la bouteille. Bon, c'est Kivan de Mezona, ou Kabe Akhina. Puisque pour les autres, c'est une nourriture, Charo les Rabbanan lui ont permis de faire un héros avec quelque chose qui est de la nourriture, bien que ça ne soit pas une nourriture pour lui.
Oui.
C'est clair?
Oui, oui. Alors, c'est ça.
Pas du tout qu'on croit que lui va pouvoir manger.
C'est ça.
C'est qu'on a déposé de la nourriture, même si cette nourriture ne peut pas être utilisée par celui qui l'a déposé là-bas. C'est paradoxal.
C'est quand même un peu risqué, parce que enfin, s'il a un trou de mémoire, tout d'un coup, il risque de boire.
Oui, bon.
C'est de la provocation, un peu, non?
Il se provoque lui-même, vous dites.
Pardon?
Il se provoque lui-même.
Oui, c'est ça, oui.
La bouteille là-bas.
Il pourrait trouver quand même autre chose que du vin, quoi.
Oui, mais c'est pour ça qu'il ne le met pas dans son khatser, c'est pour le Eruv Troumim, parce que sinon c'est Mirchol Lifnei Iver de mettre une bouteille
mais
de vin.
Mais s'il le met pour avoir 2000 pour le...
Vous avez presque la réponse à la question pourquoi Rashi n'a pas dit khatser. Parce qu'on voit ici que si c'est la nourriture pour quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec son Eruv, ça suffit. Alors bien entendu, si la bouteille... elle va pour tous les gens de héros qui eux ont droit d'en boire, alors que ça marche pour lui. Ça me dit qu'il y avait un mail que l'état de santé de Rav Hamou s'est dégradé. La suite de l'étude où ça refoua Shlema, il s'appelle Mesod Benester. Refoua Shlema. Donc, on avait avancé. On avait dit qu'en Israël, il peut déposer de la Trouma. Et la Trouma, lui, il peut pas en manger. Il n'y a qu'un Kohen qui peut manger. Donc là-bas, on a dit c'est une nourriture parce que à l'exception du Nazir, tout le monde peut en manger. Ici, c'est le contraire. À l'exception du Kohen, personne ne peut en manger. Donc il faut un nouveau Khidouche, si vous voulez, qui dit que, bien qu'en fait ce soit très peu vraisemblable qu'il y ait un Kohen qui passe par là et qui le mange, pratiquement pas. Et en plus, ça veut dire que la plupart des gens ne pourraient pas manger. C'est-à-dire, pas seulement lui, mais personne qui ne serait pas Cohen ne pourrait en manger, et ça marche quand même. Donc c'est un ridouche encore plus grand que celui du Nazir.
Ouais.
Soumkhou Somer Becholin, Avalo Betrouma. Soumkhou s'il n'est pas d'accord. Choumrosi dit, on peut pas faire de Hérouv avec de la Trouma, il faut que ce soit du Khoulin, il faut que ce soit une nourriture qui soit accessible à tout le monde. Des Midé de Khazilei Beinan. Il faut que lui puisse en manger. Donc ça marche pas non plus pour le Nazir. Bagmara me farèche, Maïta Amal, Opalik Soumkous, il y a une Nazir. La Gmara, elle va demander, mais pourquoi Soumkous, il n'a pas réagi tout de suite sur le Nazir? Il aurait dû dire tout de suite que pour que ça soit mangeable par le Nazir lui-même. Donc, le Nazir, pourquoi il a attendu de réagir seulement sur la Trouma? On verra en son temps. On peut aussi faire un héros, le Kohen Bevetapras. Donc, vous vous souvenez, Bevetapras, c'est un safek. On a un doute s'il y a éventuellement des ossements, des traces, des restes de personnes qui ont été enterrées dans ce champ. Et le Kohen, il n'a pas le droit de passer dans un champ dans lequel il y a éventuellement de tels. Mais c'est seulement parce qu'il y a un doute, peut-être, il y a. Stama, Tumkous, Amarla. Et la Gemara, elle dit, puisqu'on a dit avant que c'était Tumkous qui parlait, on revient maintenant à ce qu'on appelle Stam Mishnah, la Mishnah anonyme, ça veut dire sur laquelle il y a un consensus. L'intervention de Tumkous, c'était juste sur le point de la Trouma, disons. Mais tout le reste qui vient, tout ce qu'il y avait avant Tumkous et maintenant après Tumkous, c'est l'avis de tout le monde. Tout le monde sauf Soumkous. Mais là, sur ce point-là, Soumkous va être d'accord sur le dernier point. Malichim Hérouv le Kohen, le Bet Apras, on peut déposer un Hérouv dans ce champ dans lequel il y a éventuellement des ossements, des restes humains. Afalgav de Beinan de Matsil et Mezal, ou le Mishkele, ou Michle, Atam.
Ah oui.
Normalement, il devrait pouvoir y aller, prendre le hérouv, la nourriture en main, et la manger. D'accord? Parce que de i lo matsi achil latam erika shvita erika mkani shvita ba'udurta. Parce que s'il peut pas manger, comment est-ce que peut fonctionner la fonction de, c'est comme s'il avait habité à cet endroit-là. Puisqu'on a dit habiter, c'est manger. D'accord? Donc, s'il ne peut pas manger, on ne peut pas dire qu'il a habité là-bas. Il n'est pas nécessaire qu'il mange, mais il faut qu'il puisse manger. Les mévé qui louent Shabbat Sham, il faut qu'on ait cette fiction comme s'il avait passé Shabbat là-bas. Le Betapas. Shapir Dami de Sfeka de Rabbanan. Alors, on permet pourquoi? Parce que comme c'est un doute sur un problème de Rabbanan, le doute sur un problème de Rabbanan, c'est moutard. Si on a un doute, quelque chose qui est seulement interdit par les Rabbanan, c'est Moutar. Moutar li kanes aide nifouar. Comment il peut entrer là-bas? Alors il doit souffler pour dégager d'éventuels petits ossements dans lui, avec un soufflet ou un aspirateur, ou plutôt marcher à l'envers. Il va projeter un karcher portatif, et il avance et il nettoie le chemin devant lui, et il peut avancer, traverser ce bétapras, qui est assourd de la banane, on permet.
Ouais, comme les cantonniers qui poussent les feuilles à l'automne.
Très bien. Bon. Vous voyez, je n'ai même pas pensé aux cantonniers, moi je suis dans le tertiaire.
Mais pourquoi Soumkous il ne réagit pas sur le Nazir, là? C'est... Il considère que le Nazir il pourra un jour manger ou...
Vous allez dire,
la trouma, personne ne peut. Pardon?
Si on n'est pas Cohen. C'est pour ça que c'est beaucoup plus grave la trouma que le Nazir. C'est un plus grand risque.
Oui, je suis d'accord, mais il aurait pu aussi dire que le Nazir, ça n'a pas de sens qu'il mette du vin puisqu'il ne pourra pas en boire.
Oui, alors c'est sûr que s'il devait intervenir, il là-bas. Parce qu'à ce moment-là, on aurait su à plus forte raison que ça marche pas pour le Cohen. Tandis que quand il est intervenu là, on peut penser qu'il est intervenu seulement pour la Trouma, parce que vraiment la Trouma, c'est archi invraisemblable que quelqu'un puisse en manger. Il n'y a que le Cohen qui peut en manger, un Cohen, c'est pas fréquent. Alors que le navire, ben, n'importe qui peut boire du vin. Donc, oui. Donc il a dû intervenir. Alors, est-ce qu'on peut en déduire que Sun Prost, il n'est pas dérangé et que pour un nazir, il va permettre et qu'il est intervenu là, seulement là, parce que c'est seulement là qu'il pense. Tout ça, on va le voir dans la Gemara par la suite.
Vous d'accord, pouvez d'accord.
On va la suite.
Okay. On lit la Mishnah, on est obligé d'être patient. Parce que oui. Elle est très concise. Elle dit des choses, elle soulève des problèmes qui sont traités dans la Gemara plus bas. C'est aussi un exemple.
D'accord.
J'ai une question un peu justement d'ordre général sur cette Mishnah, parce que on nous dit comment est-ce qu'on peut faire un Hérouve et s'associer, mais pour l'instant, on ne nous parle pas du tout des raisons pour lesquelles on le ferait.
Ça, c'est intéressant.
Comment ça?
Ben, c'est-à-dire qu'on nous dit techniquement, voilà comment on fait un Hérouve, mais on ne nous dit pas dans quel but on ferait un Hérouve, après tout, pourquoi? C'est pour permettre de pousser, de porter de sortir avec les poussettes, de, je sais pas, on n'en parle pas comme si ça n'avait pas de, il n'y avait pas besoin de justifier, quoi, qu'on fasse un Hérouve. Mais pourtant, c'est quand même une takana, il y a bien une raison pour laquelle les Rabbanan ont pris toutes ces dispositions, ont permis ça. Et ça, on n'en parle pas.
C'est comme ça, la Gemara, elle ne parle pas par concept, si vous voulez.
Oui.
Ah, c'est plutôt scientifique. Imaginez, pour comprendre la démarche, vous trouvez un morceau de quelque chose, vous savez pas ce que c'est. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, vous allez éventuellement le chauffer pour voir comment il réagit à l'élévation de température. Vous allez le congeler pour voir comment il réagit à la diminution de température. Vous allez le bombarder d'abord avec des pierres et avec éventuellement des rayons, etc., pour voir comment il réagit. Vous allez l'étirer, vous allez le torturer, et puis vous aurez une image globale. Donc voilà, c'est un truc qui a, voilà, la liste des propriétés de ce truc. Alors, oui. On va regarder. Est-ce qu'on connaît quelque chose d'autre? Quand on connaît le nom qui a les mêmes propriétés, alors bon, c'est ça. Alors ça, c'est, je sais pas, une pépite de pépite de chocolat. Ouais. Ok, on sait que c'est un chocolat. Mais la démarche, c'est pas de poser la définition. On appelle pépite de chocolat un truc qui a telle et telle et telle et telle propriété, mais on prend un objet et puis on le bombarde de questions pour le définir, pour voir ce qu'il est concrètement. Parce que ce qui nous intéresse, c'est pas tellement sa définition théorique. La Gemara, elle s'occupe de choses pratiques, comment ça se traduit dans le monde. Dans le monde courant, si vous voulez. C'est cette fameuse idée que la Torah chez Birtav, la Torah écrite, c'est Moshe Rabbeinu, c'est de la Torah, c'est spirituel. Et le travail de la Torah chez Baal Peh, la Torah orale, c'est de descendre la chose dans ce monde-ci.
Mmh. Oh, ouais,
et donc,
ouais,
ce monde-ci, on s'en fiche comment ça s'appelle. Savoir comment ça réagit. Je veux savoir si ma pépite de chocolat, elle va me donner je sais pas, ma quantité de magnésium, ou, etc., quotidien, ou lequel pourcentage, etc., combien il faut que je mange de tablettes de chocolat pour avoir eu mon quantum de magnésium, ou, etc. Savoir quelle crise de foie ça va me donner, tout ça on doit savoir.
D'accord.
D'accord?
On a déjà vu quand le commencement de la Gemara et Rouvine, on part sur un sujet. On se pose une question de pédagogie, quoi.
Oui, c'est toujours comme
c'est ça. Maboy, c'est quoi, etc.
Il arrive souvent que la Gemara elle pose une question sur ce qu'est la chose, alors qu'on est déjà à la page 15, ou, etc. Ça fait 15 pages qu'on travaille sur la chose. On n'a pas jamais donné la définition. Et on s'en fiche pas mal, c'est pas ça notre problème.
D'accord. C'est sûr que si on faisait un cours sur le Hérouve.
Mais on ne ferait pas comme ça.
On ne ferait pas comme ça.
Mais... un élève dans le service, ça fait Gad, c'est la question de Gad. Lui, il avait fait des études de science. Alors, il disait, mais pourquoi la Gemara, elle ne pose pas exactement comme on faisait quand on fait un cours de maths, on pose un ensemble de définitions, on dit, voilà, un groupe, c'est ça, l'un, l'autre, c'est ça, etc. Et, je ne sais pas, l'homologie, c'est comme ça, etc. Mais
on commence par la définition, en général, nous.
On pose une définition, une suite de définitions. D'ailleurs, même dans un programme... commence à écrire en langage de programmation, vous allez donner certaines définitions quand même pour voilà. Non, c'est pas comme ça. Dans la Torah, la Torah chez Birtav, elle donne des définitions, plus ou moins, mais c'est très abstrait. Quand on parle de Shabbat dans la Torah, on nous dit quasiment rien du tout sur le Shabbat. Il faut que tu gardes le Shabbat, mais on sait même pas ce que ça veut dire. Quand la seule chose qui est interdite Shabbat, c'est que tu peux pas faire du feu. C'est tout. Ouais. Pour le reste, il y a 39 travaux, on n'en parle que d'un seul. Il y a un mot sur le Shabbat sur ce que c'est que le Shabbat dans la Torah écrite.
Et en plus, on nous dit 50 fois, quoi.
On a même des paroles sur vos bras et entre vos yeux. Je vais essayer de mettre des paroles entre les yeux. Comment on peut savoir ce que c'est que des tefillines, je veux dire. Remarquez dans la Torah écrite, tefillines. Tefillines, c'est même pas marqué là-bas. Donc, c'est pas comme ça. Il y a des abstractions. Et ensuite, la Torah, c'est ce que Moshe Rabbeinu est par rapport à la Torah écrite, c'est Rabbi Akiva par rapport à la Torah orale. C'est ça l'idée. Donc, on en reparlera dans le cours.
Avec Moshe, et disons celui qui a fait la Torah écrite, un peu comme à l'origine, il avait Akiva, c'est le Torah bain, c'est le Torah oral.
Voilà. Donc, on a dit que le Kohen, on peut même lui mettre son héros dans un cimetière, parce qu'il peut entrer dans le cimetière en se protégeant. Comment est-ce qu'il se protège? Il va faire un mur entre lui et la tombe. Un mur, c'est une palissade de 1 mètre de haut. Il se balade avec sa palissade, éventuellement, et puis chaque fois qu'il s'arrête quelque part dans le cimetière, eh bien, il met entre la tombe devant laquelle il est, et lui, il met une palissade de un mur, donc c'est considéré. Il est dans un autre rechout, dans un autre domaine que la tombe, et donc il n'a pas l'interdit. Ça, c'est ce que dit Rabbi Yehuda. Et si il alav kegon beshida teva umigdal, par exemple, il est dans une chaise à porteur, par exemple, il connaît sham ibodion, ou bien il peut entrer là-bas dedans dans une bagalote, dans un chariot, imirtse, s'il veut, alma achazile. Donc, en fait, il peut entrer. Donc, puisqu'il pourrait entrer en étant dans une chaise à porteur ou dans un truc où... dans lequel il peut faire avancer, mais il peut arriver jusqu'à son hérouf et le manger ce hérouf qui est déposé. Donc, dit-il, on peut même déposer pour un Kohen un hérouf dans un cimetière.
Bien.
Ok. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan qui parle, on est d'Afkab Zayin Amud Alef en haut. Amar Rabbi Yochanan, Ein le Medin min haklalot, ve'afilu ve'makom shenemar bo chutz. Il énonce un principe, Ein le Medin min haklalot. On n'apprend pas à partir de généralité. Rachid dit, Kolecha, c'est un klal, partout où on utilise le mot klal, ça veut dire, klal, c'est kol, c'est tout, un tout, c'est une unité, c'est un principe général. Lo amrinan dafka ou, on va pas dire que c'est seulement cette chose-là, là. Dit que klal, de l'odat bemilte. C'est général et donc il n'a pas fait attention aux détails. Il y a des choses qui ne sont pas incluses dans ce klal. Comme celle qu'on va citer plus bas. Et même lorsque dans le texte on dit à l'exception de, en dehors de. À l'exception de cette chose-là en particulier, d'ika le memar, parce qu'on peut dire, midafke le hai, vadai dak beklala, beklale, afiduahi loyal finan mine. Pourquoi? De dilma shiyer, velo apik kolmai de baye. On va pas pouvoir dire que c'est certainement, il a fait attention à ce qu'il disait, et c'est très précis. Malgré tout, on peut pas, puisqu'il a dit chutz, on pourrait dire, donc il a dû faire attention. Si quelqu'un dit, ceci, les choses sont comme ci ou comme ça, à l'exception de, d'avoir dit à l'exception de, ça veut dire que quand, à cette exception, ces exceptions-là près, ce que j'ai dit, c'est inclus. C'est tout, sauf ce que j'ai exclu. Mmh. Donc, le fait d'avoir dit tout et à l'exception de, ça me laisserait penser qu'on a été précis dans la formulation du tout. Alors, il n'en est rien, dit Rabbi Yochanan, même si on a dit chutz, peut-être que il a laissé des choses à qui sont également exclues, qui sont pas dans le klal en question, comme on va le voir plus bas, parce que, en fait, il n'a pas voulu, il n'a pas voulu être exhaustif, en quelque sorte. Le problème, c'est l'exhaustivité. Dès le moment qu'on a exclu quelque chose, on pourrait penser que le reste est exhaustif et inclusif. Exhaustif et inclusif.
Et comme vous le disiez tout à l'heure, peut-être qu'on peut trouver derrière le mot « eau » et « sel » des caractéristiques qui définissent toutes les exceptions.
Des exceptions, sont des modèles.
Voilà.
C'est pas l'eau et le sel seulement, mais tout ce qui peut être assimilé à l'eau et assimilé au sel.
Voilà. Mmh. D'accord. En fait, ça définit deux ensembles, quoi.
Oui, simplement. Par exemple, si on prend en dehors de l'agma pour l'instant, si on réfléchit sur l'eau et le sel, si vous voulez, il n'y a pas beaucoup d'autres choses. Qui ne sont pas des nourritures, qui sont aussi nécessaires à la nourriture que l'eau et le sel.
C'est vrai, oui. Oui, d'ailleurs,
moi, personnellement... d'eau, quelque part, pour cuire, pour allonger, etc. Et il faut toujours du sel pour faire apparaître le goût. Si au moins, si on veut que les choses aient du goût, il faut mettre du sel qui va exciter le goût, en quelque sorte, qui va renforcer le goût. Mmh. Donc on pourrait dire que ces deux-là, ils sont tout à fait spécifiques, que pour les os, c'est évident qu'ils ne sont pas une nourriture. Ils assimilent une nourriture parce qu'ils sont absolument nécessaires. Mmh. Parce qu'on ne peut pas, fabriquer, on ne peut pas vivre quasiment sans eau et sans sel. Enfin, on peut vivre sans eau et sans sel, mais vivre normalement, on a besoin d'eau et de sel.
Pas longtemps, hein, pas longtemps. Hein. On ne peut pas vivre longtemps.
Hein. Ouais.
En tant que nutritionniste, l'eau et le sel, ce sont des aliments, hein, bien sûr. Hein. On apprenait toujours, nous, à nos étudiants, que le premier aliment, c'est l'eau.
Parce que si... c'est pas une nourriture, c'est peut-être un aliment. C'est pas la définition de aliment.
Oui, c'est ça, non. Derrière le mot nourriture, il y a sans doute quelque chose qui veut dire qu'il faut que j'ai une certaine consistance, quoi.
Des nutriments. Mais le problème porte sur le chutz ou bien sur akol, parce que c'est vrai que
quand vous avez dit chutz, d'avoir dit chutz, ça révèle que dans le kol vous avez mis tout ce qui doit y être, que tout est inclus dans le kol, puisque ce qui ne doit pas être inclus, vous l'avez déjà exclu pour le mot chutz.
Et ben alors à ce moment-là, pourquoi
Alors c'est ça, dit Rabbi Yochanan. Bien que normalement ça devrait fonctionner comme ça, néanmoins on peut pas apprendre.
Oui.
Ça, Rabbi Yochanan, c'est un chidouche, ce que dit Rabbi Yochanan.
Oui.
Que ce soit comme ça.
Oui, d'accord, c'est ça. Parce que par exemple, on pourrait se poser la question de choses qui sont périssables, qui vont pourrir si elles restent comme ça dehors, et donc est-ce qu'on pourrait les mettre dans en faire un plat de hérouve? C'est pas évident, quoi. Là, on a pris l'exemple des matzot comme truc, justement, parce que ça se garde d'un bout à l'autre de l'année, quoi.
Mais il n'est pas nécessaire que ça... En fait, quand vous mettez un hérouve, vendredi, juste avant l'entrée du Shabbat.
Oui. Et
si le hérouve était là une minute après le coucher du soleil, c'est bon, ça marche, même s'il a disparu après.
C'est-à-dire, ah oui, c'est ça.
Même si un animal est venu, il vous a bouffé votre hérouve, mais si le hérouve était là, consommable, une minute après le commencement du au commencement du Shabbat.
Ça marche.
Voilà. Ah oui. Mais du coup, dans le parce que Rachid dit Dilma hier. Peut-être qu'il a, on a laissé des choses en.
Oui, c'est ça. Rachid dit peut-être que dans ce clan, il a néanmoins, il n'en a pas parlé, mais voilà, il a dans son coup, il aurait dû dire plus de choses.
Oui.
Par exemple, que pas y dire. Je sais pas, par exemple, ce que votre exemple, si c'était vrai, je crois que c'est pas vrai, mais qu'on dise que ben, si c'est une nourriture qui va pas tenir, donc une nourriture qui s'oxyde immédiatement et qui devient immédiatement dangereuse à consommer,
oui.
Ça marcherait pas. Et là, il l'a pas dit.
Oui, oui. D'accord.
Ça, c'est ce que Rabbi Yochanan dit. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan, il soulève un problème technique. Ici, parce qu'on a une Mishnah dans laquelle il y a un énoncé puis un chroutz, chroutz minamaim ou minamelach, et donc la question qui se pose évidemment c'est est-ce que la partie qui est un klal, qui est non exclue, est-ce que tout est inclus dans cette partie-là?
Oui.
C'est pas exclu, on n'a pas exclu. Bien, est-ce qu'il y a aussi d'autres choses qui devraient être exclues, mais qui ne sont pas, qui n'ont pas été explicitement mentionnées dans l'exclusion? Néanmoins, c'est ça la question de ça la remarque de Rabbi Yochanan.
Parce que, excusez-moi encore, mais parce que ça m'intrigue, mais dans d'autres endroits, on dit par exemple Akol Chayavin, et après on va préciser, ça inclut telle catégorie et ça exclut telle autre.
Pas des Routes.
Ah oui, c'est ça. Donc, c'est parce que ça marche avec Routes. Ah oui, d'accord.
Et Akol, vous n'avez pas besoin d'améliorer les choses.
J'ai pas compris, pardon.
Quand vous dites « akol »,
oui,
ça veut dire « akol chayavim beveya », la Gemara dans Chagiga. Tout le monde a l'obligation de monter en pèlerinage dans les trois fêtes de pèlerinage à Yerushalayim, à l'exception d'eux. Et puis il y a la liste. On lui dit par exemple « celui qui boite, celui qui ne voit pas, etc. » Ceux-là ne sont pas astreints à monter. Ils ont le droit de monter, bien sûr, mais ils sont pas astreints.
Oui.
Alors la question dit, mais pourquoi tu m'as dit Akol? Tu m'as déjà exclu ceux qui ne peuvent pas monter, donc tous les autres, ben c'est tout le monde. Et non, mais il y a quelque chose dont j'aurais pu penser qu'il est exclu et qui est, là, du coup, il est inclus. Le mot Akol veut toujours dire, on va inclure quelque chose qui n'était pas évident d'inclure.
Ah, ouais. Voilà. D'accord.
Ok.
D'accord, très bien.
Voilà, donc je répète. Amar Rabbi Yochanan et le Medin Mina Klalot. On ne peut pas apprendre à partir de choses qui sont présentées comme des principes généraux. Vafilo Bimakom chez Neymar Bochutz. Et même quand le Klal est suivi d'un Chutz, pourquoi? Mide Kamar Afilo Bimakom chez Neymar Bochutz, Miklal de Lav. Ahakai. Donc, a priori, il parle pas de ça ici. De quoi il parle, ce Rabbi Yochanan? Alors, Atam. De quoi il parle? Il parle de la chose suivante. C'est marqué, Kol mitzvat ase, Shazman grama, Anashim chayavim, Venashim turot. Shelo azman grama, Echad nashim, Veechad anashim, Chayavin. Ou klalahu, de kol mitzvah tase, shazman grama, anashim turot, are matzal, simcha, veakel, de mitzvah tase, shazman grama, ou, venashim chayavot. Voilà. Voilà. Il y a un enseignement qui dit la chose suivante. Il dit, vous savez, il y a donc, dans la Torah, il y a des mitzvot positives, où la Torah te dit, fais ceci, te dit, mange des matzot le soir du seder, elle te dit allume les nerfs de Shabbat. Elle te dit qu'est-ce que je vous dis encore? Habite dans la souka pendant Soukot. Prends un loulav, mets des tefillines, mets des tzitzit à ton vêtement, etc. Ça c'est les mitzvot où la Torah me prescrit tu dois faire ceci. Si cette mitzvah tassé est une mitzvah qui est lié au temps, c'est-à-dire, par exemple, il y a une mitzvah de manger de la matzah, oui. Mais manger de la matzah, c'est quand la mitzvah? C'est l'obligation de manger de la matzah, ce sera la nuit du Seder, on a une mitzvah de manger de la matzah. Le reste, c'est ça. T'es pas obligé de manger de la matzah. T'as pas le droit de manger du chametz. Mais si tu veux pas manger, tu peux manger. Si t'es ashkenaz, t'as qu'à manger des pommes de terre. Si t'es sfarad, tu peux manger des fèves, des trucs comme ça. Manger, mais t'es pas obligé de manger de pain. Tu manges pas de pain du tout. D'accord? T'as pas mangé de pain. T'as rien transgressé. Il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas d'obligation de manger tous les jours de la matzah pendant les jours. Mais un interdit de manger du pain. Ou du, tout ce qui est le pain levé. Tout ce qui est le vin. Mais il n'y a pas d'obligation. Le Gaon de Vilna, il dit que quand tu manges pendant les 7 jours de Pessah, pour nous c'est 8 jours, tu fais une mitzvah. Mais c'est une mitzvah qui s'appelle Kiyumit. C'est une mitzvah que, quand, si tu le fais, c'est une mitzvah, mais tu n'as pas d'obligation de le faire. Donc, cette mitzvah de manger de la matzah, elle est liée à un moment bien précis de l'année. La nuit du 14 au 15, c'est Nissan. Donc, c'est lié au temps. Donc, les femmes, elles devraient dispenser de cette mitzvah. Puisqu'elle est liée au temps. L'idée de base, elle est que les femmes sont dispensées des mitzvot. C'est une des explications. Les mitzvot qui sont liées au temps, parce que les mitzvot qui sont liées au temps, elles marquent le temps, justement. Or, les femmes, elles n'ont pas besoin qu'on leur marque le temps, parce que leur corps leur marque le temps. Les hommes qui n'ont pas un corps qui marque le temps, ils ont besoin de ces mitzvot. Les femmes n'ont pas besoin, puisque le corps leur marque un temps. Leur corps, il marque le temps. OK? Alors, on pourrait, tout le monde sait que les femmes ont l'obligation de manger de la matzah. Alors, ton clal, il marche pas. Tu me dis, toutes les choses sont liées au temps, les femmes sont dispensées. Contre-exemple. Alors, la Torah, la Gemara, elle énumère plusieurs exemples. Elle donne la mitzvah de matzah, la mitzvah de simcha, l'obligation qu'on a de se réjouir Yom Tov, en particulier à Sukkot. Et c'est vrai, on sait très bien qu'il y a une mitzvah de simcha, il y a une mitzvah de manger de la viande le jour de Yom Tov, c'est une mitzvah de simcha. Il y a la mitzvah de Hakel, il y a une mitzvah tous les 7 ans, le roi devait rassembler tout le peuple et tout le monde devait venir, y compris les femmes, les enfants, etc. Donc c'est une mitzvah qui est bien liée au temps, puisque c'était fait à Sukkot tous les 7 ans. Ce sont des mitzvot assez, mitzvot positives, il y a quelque chose à faire. Chez Azman Grama, ces mitzvot qui sont dépendantes du temps, Venashim Chayavot, et or les femmes sont néanmoins astreintes à ces mitzvot, donc c'est contraire au klal que tu as énoncé. Tu as annoncé kol mitzvah, toute mitzvah qui est liée au temps, les femmes en sont dispensées. Contre exemple, voilà. Donc ça marche pas ton klal. Kol mitzvah assez chez Lo Azman Grama. À l'inverse maintenant. Donc, les mitzvot positives ne sont pas liées au temps. C'est-à-dire la sacroute, les interdits de manger, les interdits de relations sexuelles avec des proches, etc. Les femmes sont astreintes pour tout le monde. Là, elles sont chayavotes parce que c'est pas lié au temps. Donc, ça n'a pas la fonction de marquer le temps. Donc les femmes, ils sont astreintes comme les hommes. Alors la Gemara, elle dit, mais tu dis que les femmes sont astreintes dans le mitzvah qui n'est pas lié au temps, Véhare Talmud Torah, la mitzvah de Talmud Torah, d'étudier la Torah, c'est une mitzvah qu'on a en permanence. Or, les femmes ne sont pas astreintes, c'est pas qu'elles n'ont pas le droit, mais elles ne sont pas astreintes à cette mitzvah, c'est-à-dire elles ne transgressent rien si elles n'étudient pas. Or, un homme qui n'étudie pas, il transgresse. La mitzvah de Piria Verivia, la mitzvah d'avoir des enfants, les femmes n'ont pas la mitzvah d'avoir des enfants. C'est une mitzvah qui s'impose aux hommes. C'est les hommes qui ont l'obligation. Les femmes ne sont pas obligées. Une femme qui ne voudrait pas d'enfant, elle ne transgresse rien du tout. Un homme, il est obligé de faire ce qu'il faut, c'est-à-dire comme on ne peut pas se garantir qu'on aura des enfants, mais il doit se marier pour avoir des enfants. Une femme, elle n'a pas d'obligation de se marier. Pidyon HaBen, le rachat
de
premier-né. Pardon ?
J'ai une question. Comment ça que les femmes n'ont pas l'obligation d'enfanter et de se marier ?
C'est écrit aux hommes, les hommes ont l'obligation. C'est un passage qui dit, c'est imposé aux hommes. Et bien entendu qu'elles ont le droit d'avoir des enfants. Et même que C'est tout à fait paradoxal parce que les hommes ne pouvant pas avoir d'enfants sans que les femmes participent. D'accord? C'est une situation paradoxale. C'est-à-dire, l'homme, il a une obligation dont il ne peut pas s'acquitter s'il ne trouve pas une femme qui est d'accord, alors qu'elle, elle n'a pas l'obligation de l'aider à faire sa mitzvah. C'est paradoxal. Et c'est la première mitzvah de la Torah. Là, on voit très bien que les mitzvot, elles ne sont pas données aux musulmans, elles sont données au clan Israël. C'est-à-dire, j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour faire une mitzvah, et même si cet autre-là, il n'a pas la mitzvah. Les femmes n'ont pas la mitzvah, et néanmoins, les hommes ont besoin que les femmes les aident à faire leur mitzvah. Et c'est la première mitzvah. On ne peut pas faire la mitzvah si quelqu'un d'autre ne m'aide pas. Même si cet autre, si on avait tous les deux l'obligation, et qu'on ne peut pas le faire si on ne se met pas à deux, c'est pas un ridouche. Mais ici, la femme n'a pas l'obligation. L'homme a l'obligation, mais il ne peut pas le faire tout seul. Bon, donc, la Kriya Beriya, les femmes n'ont pas. Et pourtant, ce n'est pas lié au temps. Pidyon HaBen, racheter le premier-né, c'est une obligation que seul le père a. Si le père est défaillant, c'est le tribunal, c'est le Bedin qui est en charge. On peut demander à la femme d'organiser la chose, mais ce n'est pas l'obligation de la femme. Ce sont mitzvot assez chez l'Oazman Gama, Benachim, Pturot, et néanmoins, les femmes sont dispensées. Donc, le klal, il est faux dans les deux cas. Les deux cas, la règle générale est fausse. Donc, elle, Rabbi Yochanan, c'est ce que Rabbi Yochanan dit. C'est ça qu'il a dit, Rabbi Yochanan. On ne peut pas apprendre des généralités, même quand on a dit chutz, même quand on a dit à l'exception d'eux. Le rabbi a dit, Vitema Rabbi Yirmiya, d'autres disent que c'est pas Abaye qui l'a dit, mais Rabbi Yirmiya. Afanan Namitamina. Nous aussi, on a appris une braïta. C'est aussi un enseignement qui date de l'époque du Tanaïm dans une braïta. Braïta, c'est comme une Mishnah, mais ça n'a pas été pris dans le canon mishnaïque. On a appris Od Klalecha Damru. Ils ont dit encore une règle générale. Kol She Nisa Al Gabe Azav Tame. Kol She Azav Nisa Alav Taor. Chutz Inaraoui Le Mishkav Moshav. Veha Adam. Donc, bon, on va dans le détail après. C'est un problème de Souma et de Tahara. Et la Gemara dit, il n'y a pas d'autre exception. Veha, Ika, Merkav. Aïe, Merkav, Erkidami. La Gemara dit, non, cette exception-là, c'est, bon, alors, la Gemara, mais c'est Moshav. Anan, Achi, Ika, Amrinan. Aïe, Ika, Gaba, de Ura. Tania, c'est des stèles, etc. De cheval, comme ça. Pour l'instant, je ne vais pas entrer là-dedans. Je crois qu'on n'aura pas le temps de faire ça aujourd'hui. Mais en tout cas, la Gemara, elle reste, pour nous, ça reste avec une question. C'est exactement l'enseignement de Rabbi Yochanan qui a été énoncé ici au début. On l'a mis en scène. Rabbi Yochanan, il n'a pas parlé de notre situation à nous, mais il a parlé de la fameuse situation sur la mitzvah tassé chez Azman Gramar, ou chez l'Oazman Gramar, où le klal est faux dans les deux cas. C'est là-dessus qu'on va s'arrêter.